Bonjour Marie.
Bonjour Maëlys.
Alors ce soir, vous avez souhaité faire réagir un historien à la nouvelle série française La Révolution, disponible depuis quelques jours sur Netflix.
Le récit débute en 1787 et suit épisode par épisode la naissance d'une révolte populaire qui deviendra dans les saisons suivantes une révolution. Alors si l'on connaît les événements qui ont conduit à la décapitation du roi et à l'avènement de la démocratie, la série propose une relecture et joue avec l'idée que la vérité est peut-être ailleurs, alors soigneusement cachée depuis des siècles. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin, futur inventeur de la guillotine, découvre l'existence d'un nouveau virus, le sang bleu. Alors, Loris Chavanet, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire. Dans cette série, décrite comme une uchronie fantastique, on a la sensation que si le scénario tourne le dos à la vraisemblance historique, il semble quand même confirmer une série de fantasmes liés à cette période historique. Pourquoi, selon vous, la Révolution française génère un imaginaire si fertile ?
Eh bien, pour vous répondre assez directement, je suis d'accord avec vous. La série fait part aux fantasmes, au sensationnel, à l'ultra romanesque et donc à tout ce que le cinéma a de fantastique et de science-fiction. Pour autant, la Révolution française, ses origines, son déroulement, comment est-on passé de l'ancien régime à la société moderne, eh bien, il y a eu une transition qui a commencé avant 1789 avec la contestation du pouvoir monarchique, la contestation du pouvoir aristocratique, afin d'enfanter les Lumières, c'est vrai. Et pourquoi donc autant de passion autour de ce sujet ? Eh bien, c'est vrai que c'est un sujet qui a aussi beaucoup inspiré déjà la littérature. Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, tous se sont évertués à travailler la Révolution française et tous ont quasiment versé dans un manichéisme afin de rendre cette histoire entre le peuple et les privilégiés, essayaient de moderniser cette histoire pour qu'elle parle à tout le monde et pour qu'elle évoque chaque actualité, notre vie quotidienne. Et ben parfois, il faut aussi être dans le sensationnel pour rendre cela intéressant et politiquement scandaleux, ce qui fait qu'on en parle.
Mais réduire la Révolution à une lutte à mort entre deux classes, hein, je crois que c'est ce que fait la série, est-ce selon vous un contresens historique ou du moins un appauvrissement de ce que cette période a aussi apporté à la construction sociale de la France ?
Alors bien évidemment, pour le citoyen d'aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer ce que c'était que l'ancien régime. Donc il y a d'abord une part critique, bien sûr, parce que le sang déterminait, en même temps que la fonction sociale, si l'on était du clergé ou de la noblesse, ou ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire de la roture, déterminait un niveau très précis, un statut dont on pouvait difficilement sortir sous l'ancien régime. Tout était énormément hiérarchisé et notre société aujourd'hui d'égalité, d'égalitarisme, où l'on parle d'égalité des chances, n'a absolument rien à voir avec cette époque. Donc il y a un avant et un après la Révolution, il est vrai, de même qu'il y a un contraste entre l'ancien régime et notre société actuelle. Pour autant, c'est là où l'historien intervient, si je peux me permettre, c'est important de ne pas verser dans le manichéisme, vous l'avez dit, celui de la lutte des classes, celui des riches contre les pauvres, des bons contre les méchants aristocrates. L'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Et si vous voulez, on pourrait prendre des dizaines d'exemples de personnages qui, ayant appartenu à la noblesse, ont défendu la cause du peuple. Pensez à Mirabeau, pensez à Lafayette, qui est allé aussi faire la guerre aux États-Unis pour combattre en faveur de l'indépendance et de la dignité du peuple américain à disposer de lui-même. On peut penser aussi à d'autres figures de l'histoire de la Révolution française qui nous permettent de dire que l'histoire n'était pas aussi clivante que le cinéma nous le propose. C'est pour ça qu'en tant qu'historien, j'ai souvent tendance à adorer, en tout cas admirer, la pensée complexe d'Alexis de Tocqueville ou encore de François Furet sur la Révolution française, afin d'essayer de comprendre au plus près, même en ayant recours aux témoignages, parce que les témoignages ne sont pas tous diaboliques et binaires, essayer de comprendre en tout cas cette époque d'où nous venons, et cet ancien régime, d'où nous sommes sortis.
Alors Marie, me dites-vous, c'est en s'inspirant d'une citation de Napoléon, « L'histoire est un tissu de mensonges sur lequel on se met d'accord » que Aurélien Mola et Gaïa Guasti ont décidé d'écrire cette série, donc le ton est donné.
Oui, ça paraît assez clair. Alors, Loris Chat va naître le choix du genre fantastique, le mystérieux virus, la maladie du sang bleu, qui contamine donc cette noblesse française. Est-ce aussi une façon d'exorciser les fantasmes liés à la Révolution française ?
Mais c'est vrai que donc cette vaccine, cette affaire de sang bleu qui fait en sorte que les aristocrates sont des prédateurs dignes de vampires voulant dévorer le peuple. D'ailleurs, une phrase dans la série, j'ai un peu regardé bien évidemment, veut dire que le peuple a toujours nourri ces hautes institutions et personnages aristocratiques. Il est bien normal alors que le cadavre, la chair même du peuple continue de nourrir les nobles, les ci-devants de l'époque. Bon, bien sûr, c'est une parabole, j'ai envie de dire, c'est une métaphore, mais quand on regarde les images, avec ce côté binaire, simpliste, réducteur, avec cette diabolisation de l'aristocratie, on sort un peu de la logique intellectuelle pour entrer dans le fantastique. Moi, je pense surtout à Hunger Games ou à Matrix, en visionnant ces images de la série de Netflix. Et je crois que c'est assez important pour le spectateur d'aujourd'hui de, sans doute, contrebalancer ce point de vue très manichéen par aussi une lecture de la Révolution française, de certains témoignages. Et on verra que tous n'expliquent pas de manière aussi radicale que l'avant a été absolument le règne du diable et que la Révolution française a été la lumière triomphante. On peut aussi considérer que l'Ancien Régime a permis à la bourgeoisie de s'épanouir et d'entrer dans les rangs de la noblesse. Et aussi, Danton et Robespierre appartenaient à la haute bourgeoisie, à la petite bourgeoisie de l'époque. De même, on peut considérer aussi que les révolutionnaires n'ont pas tous étaient des modèles de vertu, de modération, puisque si prédation il y a eu, la terreur a aussi fait la part belle à l'histoire. Mais ne versons pas à nouveau dans un nouveau diabolisme en évoquant l'année 93.
Y a-t-il, selon vous, une vision différente de la Révolution à l'étranger ?
Alors, c'est la question de l'étranger est très intéressante. Je vous garantis que toutes les universités étrangères n'étudient pas forcément la Révolution, bien que ce soit un des rares sujets, avec la Rome antique, qui soit étudié véritablement comme de point de vue de l'histoire universelle. Si on pense à l'égalité des droits ou la Rome antique, déjà la question de la Grèce antique, de la naissance de la démocratie, de la vertu, etc., de la philosophie. Mais le point de vue américain est essentiel sur la Révolution française. Beaucoup de Japonais étudient, j'ai participé à des colloques à Sciences Po Paris, où on discutait avec des Japonais qui sont fascinés par ces origines intellectuelles de la démocratie moderne.
Votre ouvrage 95, La terreur en procès, vient d'être réédité en poche chez CNRS Éditions. Merci beaucoup, Loris Chavanette.
Et merci Marie, on se retrouve demain.